Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h. Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et Manager, une mission d'information et de formation au leadership.
Voilà, nous sommes en direct pour le compte de cette émission Leader et Manager, une émission consacrée à l'un des sujets les plus fascinants et controversés de notre époque, l'intelligence artificielle, les défis et opportunités. Priorité à l'invité, le professeur Boubutaka, professeur à l'Institut supérieur des statistiques, docteur en bibliothéconomie. Vous allez bien, professeur?
Très bien.
Corrigez-moi si je suis dans l'erreur.
Hein. Effectivement. C'est docteur en sciences de l'information et de la communication.
Ah, voilà. Donc, la source m'a trahi. Excusez-moi. Merci beaucoup d'être là pour les comptes de cette émission Leader et Manager. Et l'animateur principal de cette émission, M. Simon Bosso. Bonjour.
Bonjour, Bob. Bonjour à nos auditeurs, auditrices et internautes.
Très bien. Entre promesses de progrès spectaculaires, il y a quelqu'un qui parlait de ça, et inquiétude ethnique. Éthique plutôt, et majeure d'ailleurs, on se pose des questions. Quels sont les véritables défis et opportunités de cette révolution technologique? Voilà pourquoi nous allons parler de l'intelligence artificielle, défis et opportunités. Vous êtes là, spécialiste. On va vous accorder quelques minutes pour la partie exposée, parce que l'émission a deux parties, partie exposée et puis partie interactive. Au moment opportun, nous allons associer les auditeurs et internautes pour poser différentes questions. Déjà, je communique le numéro avant de vous laisser la parole. 081 99 66 098, c'est le numéro pour participer à cette émission Intelligence artificielle, défis et opportunités. Vous avez la parole, cher professeur Omo. Bon.
Merci Omo. En fait, quand on parle de l'intelligence artificielle, il faudrait commencer par le commencement. Tout est parti des conférences de Massy qui ont eu lieu aux États-Unis, notamment à New York, entre 1942 et 1953. Ces forums étaient organisés et pris en charge par la Fondation Massy. Et des résultats de ces forums, il y a eu notamment la création de l'intelligence artificielle. La plus connue des aspects, la cybernétique avec Norbert Wiener, et surtout la notion de feedback qui a donné lieu à la création même des sciences de la communication. Puisqu'en fait, les sciences de la communication sont nées à partir des années 50, juste après les conférences de Massy. D'ailleurs, l'école de Palo Alto, les gens n'en parlent pas souvent, a comme soubassement les travaux des conférences de Massy. Donc c'est ça un peu la quintessence génétique de l'intelligence artificielle. Quand on parle de l'intelligence artificielle, il faudrait avoir plus une orientation cognitive. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, en fait, c'est l'intelligence humaine machinalisée, telle que j'aime la présenter. C'est-à-dire qu'une partie de l'intelligence humaine a été utilisé pour que ça soit dans le cerveau de la machine. C'est pour ça qu'on parle de l'intelligence artificielle. Alors moi, dans mes recherches, j'ai trouvé mieux pour dire qu'en fait, l'intelligence artificielle fait partie de l'artificialisation de l'intelligence humaine. En fait, l'homme, depuis qu'il est homme, nous avons appris... Par exemple, quand il y avait l'homme de paléolithique, où il utilisait notamment certaines histoires pour créer les armes, par exemple l'os, la pierre, ainsi de suite. Donc l'homme a voulu étendre sa capacité cognitive en artificialisant son intelligence, en créant ces outils-là. Alors, il est aussi vrai, il faut dire que dans cette artificialisation de l'intelligence humaine, si on revient à l'intelligence humaine proprement dite, j'ai réussi à démontrer qu'il y a deux volets. Il y a le volet de l'intelligence humaine naturelle, ici des organes de sens. Et puis il y a le volet de l'intelligence humaine artificialisée. Tout ce que l'homme apprend, de par l'apprentissage, l'éducation, la culture, la famille, tout ça, ça c'est de l'intelligence humaine artificialisée. C'est plus que ce n'est pas inné, ce n'est pas dans la logique de naissance de l'homme. Non, c'est l'intelligence qu'on apprend. Je préfère donner un exemple comme j'aime toujours faire aux étudiants. Et là, je profite, c'est vrai que je suis à l'ISES comme structure d'attache, mais je suis également à l'INIKIN, je suis à l'UPEN et dans plusieurs universités, notamment l'Université Révérend Kim. Et en dehors du pays, je suis avec l'Université Chinkatadiop. Ah, j'ai oublié, l'Université Congo, bien entendu, et l'Université officielle de Mbujima. Vraiment, c'est toute une liste. Donc, à l'étranger, je disais, je suis avec l'Université Chinkatadiop, l'Université de l'Égypte et de la Francophonie. Je suis avec l'Université de Yaoundé 3. Je suis également avec l'Université de Djibouti. Et d'autres, on travaille en termes de conférences et de suite. Donc, en fait, ici, ce qu'on doit retenir, l'intelligence artificielle a comme sous-bassement l'intelligence humaine. Et toujours dans ce cadre-là, mes recherches ont démontré que l'intelligence artificielle s'active, sinon s'opérationnalise grâce au langage binaire 0-1. Or, le cerveau humain s'opérationnalise grâce à 10 chiffres, dont de 0 à 9. Et chaque chiffre a sa sémantique. C'est ce qui fait que l'homme, en cédant une partie de son intelligence en termes de chiffres, 0 et 1, il continue à garder 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et de là, il y a même le débat entre l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, le quid de supériorité. C'est vrai que j'ai démontré qu'en fait, l'intelligence artificielle, d'abord l'intelligence humaine, est complexe, mais limitée. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, l'homme est là, nous sommes là. C'est vrai que nous sommes en pleine émission. Mais au même moment, nous sommes ici. Au même moment, nous voyons aussi d'autres aspects en dehors de l'émission. Mais malheureusement, cette approche est limitée. Mais si on prend l'intelligence artificielle, qui est une partie de l'intelligence humaine, là, j'ai démontré que c'est une intelligence programmatique. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui est orientée objet. Si on dit par exemple à un robot, son rôle est de faire, par exemple, le journal télévisé, comme on voit maintenant en Chine, ne demandez pas à ces robots-là d'aller donner cours à l'université. Donc, sa programmation est mono-orientation, comme j'ai dit, programmation orientée objet. Mais ce qui est d'intéressant, en fait, l'intelligence artificielle est exponentielle. Et j'ai créé la formule de X exposant N. X exposant N. C'est-à-dire que elle a la capacité d'augmenter effectivement l'intelligence humaine. Alors, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? En présentant, ça donne l'impression comme que l'intelligence humaine ne vaut rien. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est par rapport à la cognition. Puisqu'en fait, on a tendance de donner la quintessence informatique. C'est vrai, c'est l'algorithme, et ainsi de suite. Mais l'intelligence artificielle, d'abord, c'est le dispositif cognitif. C'est le cerveau. C'est le cerveau. Alors, par après, c'est la mathématique. Puisqu'on devait avoir ces dispositifs de chiffres. L'informatique vient au troisième niveau, puisqu'on doit créer les algorithmes pour rendre opérationnelle cette intelligence artificielle. Mais au-delà de l'informatique, il y a aussi la linguistique qui s'intéresse, puisqu'il y a tout un problème lié au langage que l'intelligence artificielle doit comprendre. Et au-delà de l'informatique, il y a les aspects notamment en rapport avec la bibliologie, C'est-à-dire qu'il faudrait que, qu'on soit capable de mettre dans le cerveau de la machine les éléments pétrifiés, cristallisés en forme d'algorithme, en forme d'instruction. Donc, c'est ça là où la biologie intervient, d'autant plus que c'est la science de l'information et de la communication. Et l'autre approche, c'est l'approche de sigmologie. En fait, la sigmologie, c'est une nouvelle discipline, qu'on peut dire même une méta-discipline, qui s'occupe des sciences de l'information, des sciences de la communication et des sciences des médias. Donc, en d'autres termes, qui s'occupe à la fois de l'informatologie, de la communicologie, de la médiologie. Et dans cette approche-là, il y a la dimension des agents conversationnels. Puisque quand on parle plus des problématiques liées aux défis et aux opportunités, on voit plus l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce contexte. Or, il faudrait alors exploiter les aspects des agents conversationnels, comme ChatGPT, DeepSeek, et ainsi de suite. J'ai dit en conscience de cause, puisque je viens de rédiger un article scientifique qui est intitulé ChatGPT et DeepFake, l'hyperpuissance américaine et chinoise de l'intelligence artificielle. Donc, c'est publié au premier trimestre de cette année ici. Donc, en fait, c'est ça la problématique liée à la quintessence même de l'intelligence artificielle. Alors, comme j'ai dit, il y a la problématique des agents conversationnels. Et ça, c'est. Il faut se le dire que l'intelligence artificielle a beaucoup plus d'assises technologiques, mais il y a quand même un déficit en termes de théorisation, de construction, de paradigmes, de construction de méthodes en rapport avec l'intelligence artificielle. Effectivement, ça, c'est la problématique liée à certaines recherches que les spécialistes, enfin pas les spécialistes, les théoriciens, les épistémologues en SIC doivent, pas en SIC, j'allais dire en SIGME, puisqu'il y a quand même, quand on dit SIC, c'est science de l'information et de la communication, mais en fait, on devait dire science de l'information et de la communication du média. Si on a le temps, je pourrais revenir sur ça avec, sous votre contrôle. Donc, à ce niveau-là, les agents conversationnels, c'est très important pour opérationnaliser notamment l'interface entre l'homme et la machine, notamment dans le cadre de résolution de problèmes. Surtout avec les étudiants, aujourd'hui, on dit souvent que l'intelligence artificielle favorise la tricherie. Bon, on ne va pas dire que la tricherie est liée seulement à l'intelligence artificielle, puisque certains auteurs ont dit que l'homme de nature est tricheur, mais c'est la société qui doit le réorienter, ainsi de suite, pour qu'il devienne normal. D'ailleurs, c'est l'erreur de l'Église, puisque l'Église doit essayer un peu de formater, réformater l'homme pour qu'il ait des valeurs, puisque s'il dépendait que de lui, c'est l'expression aussi des anti-valeurs, il ne faut pas oublier. Donc, de ce point de vue-là, les agents conversationnels permettent l'interface entre l'humain et notamment la machine dans le cadre de résolution des équations de recherche. C'est vrai qu'intelligence artificielle dans plusieurs volets, en médecine, on peut faire aujourd'hui les opérations d'intervention chirurgicale, le chirurgien peut être très loin avec les appareils. Donc, mais ici, je voudrais être plus dans mon secteur des sciences de l'information, de la communication et des médias. Donc, c'est ça un peu la quintessence de l'intelligence artificielle, d'après mes recherches. Il ne faudrait pas négliger, il ne faudrait pas non plus aller à contre-courant de l'intelligence artificielle. Nous devons vivre avec. Nous devons vivre avec. Bon, il est vrai que dans certains textes théologiques, ecclésiastiques, religieux, bon, on a tendance à dire que, bon, à un certain moment, quand on parle de 666, et qu'il y aura. Tout va être acheté selon une certaine codification du numérique. Alors, certaines personnes commencent à réfléchir, est-ce que nous ne nous approchons pas vers cette fin du monde avec, puisqu'à ce moment, on dit que si on n'est pas dans la logique d'intelligence artificielle, on ne saura plus acheter les histoires, on ne saura plus ainsi de suite. Donc, c'est compliqué, mais nous sommes obligés de vivre, puisque par-dessus tout, c'est une entreprise humaine. Et à mon côté, j'ai quelqu'un qui maîtrise la dimension notamment du leadership, de l'entrepreneuriat. Et ça m'étonnerait que l'intelligence artificielle, qui est une entreprise humaine, que ça soit exempt des défauts. Donc toute entreprise humaine, il y a des parties positives et des parties négatives. C'est à tout et chacun, à l'utilisant, qu'il sache pour quelle fin cette intelligence artificielle est utilisée pour effectivement résoudre ce problème. Mais in fine, il est démontré qu'au niveau des 7e étape de l'intelligence artificielle, puisque pour le moment, c'est l'intelligence humaine qui contrôle l'intelligence artificielle. Mais au 7e niveau de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle qui va conditionner l'intelligence humaine. Et c'est ça la crainte, surtout, notamment avec les hommes de Dieu, où il y a risque que l'humanité soit anéantie par la machinalité. Donc, je préfère m'arrêter là pour qu'il y ait plus les interactions. Le reste, là, on verra.
Voilà. Merci beaucoup à vous, cher professeur. Nous rappelons, vous êtes professeur Bob Boutaka. Vous m'avez corrigé. Je pense que je ne vais plus commettre cette erreur. Vous êtes professeur d'université. Vous l'avez
des
cité. Donc voilà. Donc vous avez cité une panoplie d'universités ici. Et on parle de l'intelligence artificielle, défis et opportunités. Vous avez donné l'essentiel. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, une intelligence humaine machinalisée. Vous avez parlé de votre connaissance, de votre approche. L'intelligence artificielle fait partie de l'artificialisation. Je pense que je suis dans les bons. Mm-hmm. Et quelque part, là, on a chité avec. C'est là où ça va d'ailleurs créer beaucoup de débats. L'intelligence humaine qui contrôle l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle conditionne l'intelligence humaine. On va rentrer de l'autre côté avant de commencer les débats. On rentre de l'autre côté et retrouver Cédric Foulot qui va nous proposer un morceau de musique. Et nous allons accorder la parole aux auditeurs pour participer à cette émission. 0 81 99 66 0 90.
Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice. Et temps ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice. Et temps ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. À celui qui déploie l'effort, donnant un juste revenu, revendiquer ce n'est pas un tort. Lorsque l'homme s'est bien tenu, le travail nous libérera, la justice se brisera, le travail nous libérera, la justice se brisera. Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice, et tous ensemble nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice. Du temps ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Quel que soit le lieu, le sol, la vie chasseur enlève au rien, même au fond des géants, nous ferons triompher le bien. Travaillons, nous vaincrons le temps, de lequel nous serons contents. Travaillons, nous vaincrons le temps, de lequel nous serons contents. Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice. Et quand ensemble nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice. Et quand ensemble nous bâtirons la vie sans préjudice. pour la vie, prenons l'outil qui chasse la paresse. Oublions chagrin et soucis, et quand nous la vie renaisse, travaillons au même son, du cadre au maçon. Travaillons au même son, du cadre
Radio Maria, une voix céleste dans votre maison.
Travaillons, nous gagnerons. Tout ce monde sans injustice, du temps ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons. Tout ce monde sans injustice, du temps ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. L'univers d'être riche sera un jour découvert. La vérité vainqueur les menteurs, ceux qui voient la vie de travers. Travaillons pour nos enfants, nous serons de bons parents. Travaillons pour nos enfants, nous serons des bons parents. Nous bâtirons la vie sans préjudice. Pour la vie, prenons l'outil qui chasse la paresse. Oublions chagrin et soucis, et quand nous la vie renaisse, travaillons au même son, du cadre au travaillons au même son, du cadre au maçon. Travaillons, nous gagnerons. Tout ce monde sans injustice, du temps ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons. Tout ce monde sans injustice, et dans ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. L'univers d'être riche sera un jour découvert. La vérité vainqueur les menteurs, ceux qui voient la vie de travers. Travaillons pour nos enfants, nous serons de bons parents. Travaillons pour nos enfants, nous serons de bons parents.
Voilà, nous reprenons l'émission Leader et Manager, c'est la partie interactive. 25 minutes d'interactivité, oui, ça va. 081-99-66-098. 081-99-66-098. C'est le numéro pour participer en direct à cette émission. 081-99-66-098. Nous allons prendre les questions. Nous allons prendre les réactions des auditeurs. 081-99-66-098. L'intelligence artificielle. Défis et opportunités. La première question. Bonjour Radio Maria, bonjour professeur. Très ravi de votre exposé. L'intelligence artificielle, quels sont les dangers liés au biais algorithmique dans les systèmes d'intelligence artificielle? C'était Ndandola depuis l'université de Kinshasa.
Ok. Merci. Chers disciples, je voudrais d'abord revenir sur la quintessence de l'algorithme. Quand on parle de l'algorithme, en fait, c'est quoi? C'est la succession d'étapes. Donc, nous, même pour arriver ici, depuis qu'on s'est réveillé, on a essayé un peu de faire une certaine programmation des étapes. Donc que je vais sortir, je vais prendre mon petit déjeuner après, je vais prendre les transports, je vais prendre tel itinéraire, je vais arriver chez tout ça, ainsi de suite. En fait, c'est ça la logique d'algorithme, donc la programmation. Il est vrai qu'en informatique, on a rationalisé pour qu'il y ait beaucoup plus d'efficacité dans cette logique-là. Or, les algorithmes sont créés sur fond de l'intelligence humaine. Donc ça va de soi, quand on crée les algorithmes en fonction de la pensée, de l'idéologie du concepteur, on peut trouver la positivité ou bien la négation dans l'intelligence artificielle. À supposer, je voudrais un peu revenir sur le cas, par exemple, de Terminator, le film Terminator. On a vu Arnold qui avait le côté humain et le côté machinal. Quand Sarah lui a demandé à un certain moment de tuer la personne qui l'a pourchassé, Arnold lui dit, je n'ai pas été programmé pour cela. Donc c'est ça, ça répond au mieux la préoccupation du CT. Donc, tout est fonction de l'intelligence humaine pour programmer. Il est vrai aussi qu'à un certain moment, d'ailleurs, dans certains laboratoires de pays développés, notamment la Chine, les États-Unis, la Chine en intelligence artificielle, il y a cette problématique où il y a la générance de l'intelligence artificielle sur base d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est en train de créer ses propres algorithmes. Et c'est là où la crainte est majeure, notamment pour l'Église. Pour l'Église. Donc, l'algorithme tel que conçu par l'homme est fonction de l'orientation que l'homme voudrait que cet algorithme agisse. La preuve en est que quand on prend les algorithmes des agents conversationnels, d'ailleurs, si vous prenez par exemple le ChatGPT et le DeepSeek, pardon, qui semblent être les antagonistes, mais c'est différent par exemple de Gemini. Donc c'est-à-dire qu'il y a les algorithmes, mais les algorithmes sont différents. Les algorithmes sont fonction des objectifs assignés par la personne qui a conçu ces algorithmes.
Très bien, merci beaucoup. Mais quelque part, c'est ça aussi les problèmes avec l'intelligence artificielle, si on peut dire les limites. Et quand vous parlez de la programmation, parce que nous le constatons, vous demandez, mais la réponse n'est pas juste, ou on tâtonne, vous vérifiez, ce n'est pas la bonne réponse.
Oui, c'est comme j'ai dit. En fait, je me suis référé de ce que le professeur Modimbe, de Reuse Mémoire, qui a dit que la limite des sciences sociales, c'est le fait que ça soit un peu en dehors de la société. Bon, c'est une façon de parler. Mais moi, j'ai dit la limite des mathématiques, enfin, la limite des sciences exactes, l'est dans la mesure où ce sont des sciences inexactes. Puisqu'on mise aussi sur la marge d'erreur. Mais comment quelque chose qui est, on dit que c'est exact, doit encore avoir dans son sein la marge d'erreur. Donc c'est pour dire que dans tout ce que l'homme fait, il y a une dimension où il y a les erreurs. Peu importe le degré d'intelligence, de technologie, ainsi de suite, il y aura toujours des failles qu'on va observer. Mais imaginez-vous, Boeing, avec tout ce qu'il a comme armada d'ingénieurs, d'informaticiens, ainsi de suite. Mais il y a les Boeing, vous avez appris, il y a des problèmes au niveau des avions, des Boeing, ainsi de suite. Donc, en fait, le grand problème, c'est au niveau de la technophilie et la technophobie. Technophobie, on ne voudrait pas en parler, puisque ce sont les gens qui sont hostiles à la technologie. Mais il y a les technophiles, donc les gens qui croient que la machine est là pour résoudre tous les problèmes. Notamment dans cette approche-là, nos amis les informaticiens sont dans cette logique-là pour croire que l'informatique va résoudre tous les problèmes qui se posent dans la société. Je ne suis pas d'accord avec cette approche-là. Ça participe à résoudre beaucoup de problèmes, mais ça ne veut pas résoudre tous les problèmes. Alors, quand on considère, par exemple, un agent conversationnel comme un cadre de référence presque absolu, on va tenter dans cette approche-là pour être un peu déçu que moi je crie que ça allait me donner des réponses telles que je souhaitais, mais non. Et c'est la raison pour laquelle je dis aux étudiants, utilisez le ChatGPT par exemple comme une source d'inspiration, mais quant à vous, à voir comment l'enrichir pour que le texte soit plus potable. Mais si vous faites le copier-coller, vous n'aurez rien. Mais comment on peut vous donner un texte, vous ne lisez pas, vous dites qu'est-ce que la machine a fait, c'est bon. Non. Même en informatique, ils cherchent à améliorer le ChatGPT et les différents agents conversationnels. Donc ne soyons pas les snobs de croire que c'est la déification, donc c'est que la machine fait, il n'y a pas de défaut, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de problèmes.
Voilà. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'éducation aux médias, cet esprit critique.
Effectivement, avec le professeur Linom.
Très bien. On va prendre autre question. Nous en avons beaucoup. Alors, on prend cette question. C'est un questionnaire. Hein. Bonjour Radio Maria, c'est Aline Moutoumossi depuis la paroisse Saint-Luc. Merci beaucoup au professeur pour cette émission et merci pour ces sujets. Ma première question, comment encadrer légalement et éthiquement le développement de l'intelligence artificielle? Deuxième question, faut-il craindre que l'intelligence artificielle dépasse un jour l'intelligence humaine? Et pour terminer, la troisième question, comment assurer un développement éthique, inclusif et durable de l'intelligence artificielle? Nous en avons beaucoup des questions. Je préfère être un peu court pour...
Ok, merci. Concernant la problématique en rapport avec l'encadrement légal, je dirais logistique, ça, c'est effectivement, c'est le rôle notamment du Parlement, qui doit réfléchir en termes de textes. Et puis, effectivement, le Parlement, si les parlementaires ne vont pas faire ça puisqu'ils sont parlementaires, ils doivent toujours se faire accompagner par l'expertise en la matière. Là, je voudrais quand même dire, on constate, par exemple, en RDC, il y a une certaine tendance qui voudrait qu'il y ait un certain conflit entre les scientifiques et les hommes politiques. Non. Les deux doivent travailler ensemble pour que le monde évolue. Donc, c'est au Parlement d'avoir les textes, de créer des textes légaux. Effectivement, dans les autres secteurs, par exemple, les ministères, les entreprises, ils pourront créer les textes d'accompagnement pour qu'effectivement qu'on arrive à bien d'encadrer l'intelligence artificielle. Bon, il faut le reconnaître, c'est quand même c'est un phénomène ou un fait récent. Donc, il faut quand même donner le temps au temps. C'est vrai que, par exemple, il y a la loi qui cadre le numérique, mais ça, c'est d'une manière générale. Mais pour l'intelligence artificielle, il faudrait encore davantage qu'il y ait des textes en la matière. Bon, est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine? Oui, au niveau des septièmes niveaux, à en croire l'évolution. Je prends un exemple. Aujourd'hui, avec les télescopes, par exemple, Hubble, on voit l'univers autrement. Avec les valeurs, l'intelligence humaine, pour nous, tout ce qui brille la nuit, c'était les étoiles. Mais avec l'intelligence artificielle, on voit que non. Au-delà de ce que nous voyons, il y a des galaxies. Il y a des notre galaxie, c'est la Voie lactée. Mais il y a plusieurs galaxies à travers tout ça où on dit même il y a d'autres planètes sœurs. Tout ça, l'homme a vu au travers de l'intelligence artificielle. À la lire où vont les choses, en termes de résultats programmés, il y a une forte probabilité pour que l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine.
Donc là, il faut craindre l'intelligence artificielle.
Mais c'est ce que j'ai dit au niveau des septièmes niveaux. La machinalité va primer sur l'humanité. Maintenant, c'est l'humanité qui prime sur la machinalité. Mais à un certain moment, il faut les reconnaître, puisque vous voyez par exemple en Chine, mais même quand vous êtes en cours de route, vous êtes, il y a les images qui vous capturent, ainsi de suite. Donc, mais maintenant, nous sommes vraiment dans l'engrenage de l'intelligence artificielle. Alors, pour le développement problématique, éthique, ainsi de suite, bon, ça c'est le rôle de chercheurs, notamment en philosophie, spécialistes d'éthique et les autres aspects, de réfléchir ensemble, bien entendu, sous le leadership de ceux qui dirigent.
Très bien.
L'État.
L'État.
Merci beaucoup. Écoutons ceci.
Bonjour Bob, bonjour cher coach, et merci beaucoup pour cette très belle émission, hein, l'intelligence artificielle. J'ai même suivi tout à l'heure l'émission, donc disons le journal au niveau de Radio Maria qui parlait sur l'intelligence artificielle. Et apparemment, le monsieur voudrait comme dire qu'il faut inculturer, hein, l'intelligence artificielle, parce que on nous a trop envoyé à une sorte d'intelligence artificielle occidentale. Alors, il faut faire en sorte que nous puissions avoir notre propre intelligence artificielle en Afrique. Est-ce qu'il veut parler ici de l'inculturation de l'intelligence artificielle, faire que l'intelligence artificielle soit africaine? Ma première petite question, je me demande comment un professeur éminent peut faire que son livre rédigé à main soit disponible sur Internet sans toutefois réfléchir à toutes les conséquences, entre autres le plagiat que l'on peut faire sur son livre, et donc arriver à mettre ainsi la notion même du plagiat ou de plagiat en jeu. Est-ce que finalement, ne pouvez-vous pas confirmer que l'utilisation d'intelligence artificielle constitue du plagiat sur le plan éthique qui touche beaucoup plus le milieu universitaire ou même le milieu étudiantin? Aujourd'hui, la bibliothèque et l'amour du livre a perdu ou perd de plus en plus sa place, et la mémoire de l'étudiant devient très faible au niveau de la recherche, parce que tout de suite, ce qu'on veut avoir, on trouve ça sur l'Internet. Je m'interroge, hein, et j'enchaîne en disant, je m'interroge sur la production d'un texte par un algorithme d'intelligence artificielle. Mais le même texte-là, de l'intelligence artificielle, s'alimente aussi des centaines de milliers de textes en ligne. Alors, il se pose finalement ici le problème de l'authenticité de ces textes-là. On ne sait pas finalement si ce texte est authentique ou pas. Est-ce que ce texte a l'impérium? Surtout si lorsqu'on a des textes à caractère théologique qui n'ont pas l'impérium de l'évêque et qu'on nous bombarde sur l'Internet. Il se pose ici un grand problème sur ça. Comment détecter finalement le faux article scientifique rédigé par l'intelligence artificielle? Merci beaucoup, c'est Joseph Desmarie.
Vous avez la parole, cher professeur.
Merci, cher frère en Christ. J'aurais voulu même, je dirais même que vous avez déjà donné la réponse, de toute façon, puisque vous avez fait montre d'une grande capacité de réflexion en cette matière. Effectivement, nous avons un sérieux problème avec les plagiats. Et là, c'est à tous les niveaux, hein, il faut se le dire. Puisque le professeur, c'est aussi un humain. Hein. Donc, autant nous déplorons le comportement des étudiants, des écoliers, autant nous devons aussi déplorer le comportement de certains professeurs. Qui ne veulent pas travailler en utilisant la loi des moindres efforts. Malheureusement, il y en a nombreux à travers le monde. Donc, cette situation n'arrange pas l'avancement de la science. Vous savez, l'ennemi numéro un de la science, c'est la tricherie, c'est le plagiat. Et comme vous aviez dit, effectivement, quand on veut être plus esclave de la machine, on détruit les mémoires. Puisque le mémoire a la capacité de générer beaucoup d'éléments. Mais si vous ne voulez plus l'utiliser, ça ne va, va pas être facile pour lui. Dans la mesure où j'ai constaté, notamment les étudiants qui font la statistique, même les mathématiques, ils ont des problèmes pour calculer Si on dit par exemple 15 fois 12, ils ont des problèmes. Or, nous, à l'époque, avec notre système de calcul mental, on nous montrait comment, par exemple, 15 fois 12, donc vous prenez 15 fois 10, donc 150, vous prenez les 15 là fois 2, 30, donc ça fait 180.
Simplifié.
Il y avait des méthodes comme ça. Mais qu'est-ce que je constate, même à la maison, je vois quand je pose une question, la tendance, c'est qu'on doit avoir la calculatrice. Donc ça détruit la pensée humaine. Et ça, c'est trop dangereux. Et je soutiens, cher ami, votre intelligence autour de cela. La problématique de contrôle des textes générés par l'intelligence artificielle, vous l'avez si bien dit, et là j'ai aimé. C'est pour dire qu'en fait l'intelligence artificielle, du moins par rapport à ce niveau, ne crée pas encore. En fait l'intelligence artificielle utilise ce qui est déjà généré, ce qui a été créé et mis dans la toile, donc www. Et maintenant, puisque l'Internet, c'est l'arborescence des nets, donc des réseaux, effectivement, l'Internet artificiel utilise le même contexte d'arborescence, notamment au niveau des agents conversationnels, pour chercher à puiser les informations qui sont là, qui sont déjà... Or, la qualité des gens qui mettent ce genre d'informations, là aussi, ça laisse à désirer. C'est la raison pour laquelle je reviens aussi à... mon ami, collègue, frère, professeur Lino, qui s'intéresse au phénomène de fact-checking. Bon. Et là, malheureusement, le fact-checking, c'est plus au niveau du numérique. Mais au niveau de l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'il y a déjà certains logiciels, mais ce n'est pas vraiment en vogue. Donc, les efforts doivent être fournis, notamment au niveau des universités, pour contrôler les thèses. Par exemple, il faut reconnaître à l'INIKIN, c'est quand même parmi les premiers établissements qui contrôle l'originalité des thèses de doctorat et des mémoires des DEA. Et j'ai appris que le comité de gestion de l'INIKIN a déjà fait en sorte que même au niveau des licences ou bien des masters, on va aussi vérifier l'authenticité de ces mémoires. Donc ça, ce sont les efforts qui sont... Exactement. Donc ça, on va encourager, mais qu'on se le dise, l'intelligence artificielle dépend de l'intelligence humaine. Il faut faire montre des capacités de contrôler cette intelligence artificielle. Alors, la problématique liée à l'africanisation de l'intelligence africaine. Il y a mon disciple de l'université officielle de Mbujimayi, qui, après mes enseignements d'intelligence artificielle, il a eu le réflexe, d'ailleurs, en plein cours, il me disait que non, puisqu'il était chef de travaux, il m'assistait, il disait que non, prof, mais nous là, ce qu'on voit en Afrique, par exemple, il y a match, et puis du coup, il y a la pluie qui tombe, et ce n'est pas de l'intelligence artificielle. J'ai dit, bon, si on prend le contenu, la sémantique qu'on a donnée à l'intelligence artificielle, c'est plus un contenu lié aux aspects algorithmiques, liés à l'informatique. Donc, si vous pensez que c'est vrai que c'est une intelligence, mais personnellement, ça m'étonnerait que ce soit une intelligence artificielle. Peut-être l'intelligence humaine artificialisée. Peut-être. Mais dire que l'intelligence artificielle africanisée, l'africanisation de l'intelligence africaine, j'allais dire, l'africanisation de l'intelligence artificielle se ferait au niveau où les Africains vont commencer à construire aussi les agents conversationnels. Donc là, je peux comprendre. Mais dire qu'il y a soit des foudres, si quelqu'un a des problèmes, on peut utiliser ça comme arme artificielle, tout ça, j'ai quand même des doutes pour consolider cette approche-là.
Savoir traditionnel.
Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Joseph Desmarais, qui cherche à avoir la source ou la certitude d'une bonne information. Là aussi, il faudrait peut-être signaler en tant que journaliste. Il faut soutenir compte des sources. Il y a ce qu'on appelle le média numérique. C'est en fait le média traditionnel ramené dans les numériques. Il y a l'objectif, c'est d'informer et puis informer. Ce sont les journalistes qui travaillent, qui élaborent et puis nous disposons, c'est là. Mais avec les réseaux sociaux, là-bas, ce n'est pas, l'objectif, ce n'est pas ça. C'est l'interactivité, les partages. Tout le monde peut les faire, tout le monde peut écrire. C'est à vous de choisir les sources. Donc, il y a des médias numériques où vous pouvez avoir des bonnes informations, mais c'est à vous aussi d'avoir cet esprit critique. Là, nous revenons avec le professeur Lino Pongi, éducation aux médias. Mm-hmm. Donc, ne gobez pas tout. Il faut d'abord critiquer, voir est-ce que c'est une bonne information, quelle est la source. Voilà un peu. Nous allons finir, mais il y a une question qu'on nous pose tout de suite là. Bonjour ma radio, merci pour cette belle émission. Quelques préoccupations. Quels sont les avantages de l'intelligence artificielle dans la protection de la cybercriminalité? Deuxième question. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle est limitée si cette dernière sort d'une part de l'homme et que l'homme a des limites à délimiter. Alors, en cas de limites, que devient l'intelligence artificielle? Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je reprends. J'ai l'impression, c'est la préoccupation de l'auditeur, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle est limitée. Si cette dernière sort d'une part de l'homme et que l'homme a délimité, alors en
a
cas...
Des limites.
A des limites. Hein, je pense que c'est ça, vous avez raison. A des limites, c'est mal écrit. Alors, en cas des limites, que devient l'intelligence artificielle?
Bon.
Je conclue avec la troisième question. Si l'intelligence artificielle affaiblit d'une part l'homme, pourquoi vouloir en faire sa propagation?
Bon, je vais commencer par cette dernière question.
Rapidement, parce que là...
Oui. Dans les années 70, il y a un Américain d'origine polonaise, Kazimierz Brzeziński, qui est un fin stratège. Et c'est lui qui a conçu la révolution technétronique. Et d'après lui, l'hyperpuissance des technologies était liée au nouvel ordre mondial. Donc, ceux qui utilisent aujourd'hui, ceux qui savent manipuler, gérer l'intelligence artificielle, ce sont les superpuissances d'aujourd'hui. Alors, donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement le problème de vouloir, c'est le problème idéologique de puissance de la géostratégie. Donc, il faudrait comprendre ça, puisque nous, on a tendance de voir plus les aspects sociologiques, inhérents, tout ça. Mais sous d'autres cieux, si vous êtes avec Elon Musk, il ne faut pas lui dire ce genre d'histoire. Il va vous dire que ben, vous êtes dans quel monde. Et il faut aussi reconnaître que nous sommes encore dans la jungle. Je peux faire le dire, nous sommes encore dans la jungle au niveau d'intelligence artificielle, puisque notre niveau est encore, pas même fœtal, mais c'est vraiment en bas là-bas. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette réalité d'intelligence qu'on n'arrive pas à comprendre. Bon, le syllogisme qu'il a créé, c'est bon. Mais j'ai dit au début, c'est une œuvre humaine, ça va de soi qu'il y ait des limites. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Concernant la cybercriminalité, ainsi de suite, mais en fait, là, c'est quoi? C'est la manière dont on utilise les instruments numériques d'intelligence artificielle. Si on est mal intentionné, on va créer la criminalité à travers l'intelligence artificielle. Puisque avec le phénomène, par exemple, de deepfake, c'est-à-dire que quelqu'un, cher ami Bob, peut prendre votre image, votre vidéo, mais il met les sons de l'excellence et honorable Simon Mosso. Et maintenant, il y a même les images où on montre que vous avez participé, par exemple, au cambriolage d'une banque. Donc, on vous voit physiquement. Et vous, quand vous voyez l'image là, vous vous voyez. Et c'est ça le côté. En fait, ce qui est important ici, c'est la manière dont on veut utiliser ça. Si on est positif, ça va consolider l'humanité. Si on est négatif, ça va détruire l'humanité. Tout est fonction de tout un chacun.
Voilà, il y a beaucoup de réactions, mais l'odeur de la jalousie du temps s'est fait déjà sentir. Alors, atterrissons sans obstacle. Là, je vais donner la parole à M. Simon Mosso avant de revenir vers vous pour conclure.
Bien, merci. Je voudrais remercier mon frère et ami et collègue Bob, nous avons travaillé avec lui à la Banque mondiale. C'était le chef du centre de documentation de la Banque. Donc, il a une grande expérience dans les institutions internationale de la gestion de la documentation. Et aujourd'hui, professeur, merci pour... Il écrit beaucoup. D'ailleurs, Bob, je vais t'inviter à le recevoir dans ton émission sur les livres.
Hein. Ah, oui. Il a pensé écrite, beaucoup de nous livres.
Avons... Il a une émission sur la pensée écrite pour pouvoir parler de tous ces livres que nous devrions connaître. Il a écrit sur des archives, il a écrit sur des personnalités, il a écrit sur Papa Kinduelo, un des grands opérateurs économiques. Sur Papa Kengo, merci à tous nos auditeurs qui avaient réclamé après l'émission de la sœur Odette Sangopamba sur l'intelligence artificielle qu'on puisse poursuivre sur le sujet.
Mais déjà, il y a voilà. Anthony depuis Lubumbashi qui réclame est... le professeur de revenir encore pour parler de l'intelligence artificielle. On vous réclame.
Il n'y a pas de problème.
On va, voilà. On va organiser pour vous recevoir encore. Merci. Peut-être pour conclure
je félicite notre radio. C'est ça l'approche de l'Église catholique. On n'est pas là seulement pour parler de ce qui a un rapport avec la divinité, mais on met en évidence l'humanité. Et c'est ça l'avantage. Et c'est la raison pour laquelle l'Église catholique, tout comme toute l'Église, ont aussi cette responsabilité sociale. Ce n'est pas seulement les entreprises, mais l'Église a surtout cette responsabilité sociale. Et je voudrais quand même dire une chose par rapport à l'Église catholique et protestante. Vous savez, dans presque tous les pays colonisés, l'Église vient pour soutenir l'État. Mais le cas de la RDC, l'Église a participé à la création de l'État qu'on appelle aujourd'hui la RDC. Donc, que les politiciens ne découragent pas les politiciens pour dire que non, c'est notre matière à nous, je n'y crois pas. Puisque même au niveau de la conférence de Berlin, je fais beaucoup de tout cela, l'Église catholique s'est imposée sur beaucoup de matières. Et ni était l'Église catholique, croyez-moi, je ne suis pas contre d'autres religions, d'autant plus qu'on prône l'œcuménisme ou bien de mise en commun la reconnaissance d'autres religions, mais c'est grâce à la stratégie de l'Église catholique que l'islam a été contrecarré. Donc il faut se le dire, l'Église participe à la société, a un mot à dire.
Très bien, merci beaucoup. C'est une émission qui fait la promotion humaine, qui favorise la promotion humaine, et c'est une émission de chaque jeudi à 9h35, comme on vous réclame. Vous allez revenir pour parler de l'intelligence artificielle. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci à Cédric Foulot et merci à Papa Simo qui joue avec les leaderships pour toujours nous amener des têtes et enfin dans le but d'éclairer les lanternes de nos auditeurs. On vous fixe rendez-vous très prochainement. Cette émission sera disponible sur le site de Radio Maria, www.radiomaria.cd. La rediffusion la semaine prochaine. Restez nous fidèles, surtout à l'écoute de la fréquence maternelle. Au revoir.
Leader et manager, une mission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une mission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une mission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30.